Pendant une retraite, nous voyons bien sûr notre misère, notre faiblesse, d'où l'examen, la méditation ou l'instruction sur le péché que vous avez eu tout à l'heure. Mais il ne faudrait évidemment pas en rester là. Il s'agit pour nous de, comme dans la Genèse, ou après l'évocation du péché originel, l'auteur de la Genèse, Moïse, nous indique tout de suite la parole encourageante que Dieu a eue de nous envoyer un sauveur. Il ne faudrait pas rester sur nos péchés. Il faut regarder tout de suite, après notre misère, celui qui est la source de la miséricorde, notre Seigneur Jésus-Christ. Je cite cette phrase de la Genèse que vous avez au chapitre 3. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te meurtrira à la tête et tu la meurtriras au talon. C'est donc dans le chapitre 3 de la Genèse, verset 14. On appelle ce passage le proto-évangile, premier évangile. Évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Et c'est effectivement une grande et bonne nouvelle que de découvrir que malgré ce plan de destruction, malgré cette chute qui a dépouillé l'homme et Adam et Ève, donc, de tous les bienfaits dans lesquels ils avaient été créés, malgré cela, Dieu ne s'avoue pas vaincu, on pourrait dire cela. Il va racheter la faute qui a été commise. Et ce plan, ça s'appelle justement la rédemption. Et il est annoncé de façon un petit peu obscure, c'est vrai, mais de façon claire en même temps, puisqu'il y a une affirmation. Et on peut dire que lorsque Dieu affirme quelque chose, eh bien, ce n'est pas sujet à une possibilité, une probabilité, c'est une certitude. Donc lorsque Dieu dit « je mettrai une inimitié entre toi et la femme », cela montre bien qu'il y aura la femme, qui a toujours été interprétée comme étant Notre-Dame, d'où l'appellation de « femme » par Jésus-Christ envers sa mère à différents moments de sa vie, eh bien, Notre-Dame sera mère d'une postérité qui sera opposée à celle du démon. Et ce sera le début de la rédemption, l'annonce de la rédemption. La rédemption, ça signifie rachat, et il s'agit de racheter l'esclave de son esclavage. L'humanité, s'étant abandonnée dans la personne d'Adam et Ève, puisqu'Adam et Ève étaient les dépositaires de toutes les richesses de l'humanité, et puisqu'Adam et Ève ont perdu cette richesse, eh bien, toute l'humanité se trouve non plus sous la bonté de ses richesses, mais dans l'indigence la plus complète. On sait que les dons préternaturels, par exemple, ont disparu. Ces fameux quatre dons qui permettaient à Adam et Ève d'être impassibles, immortels, de ne pas avoir de concupiscence, de ne pas être esclaves de leur passion, par exemple, et d'avoir une connaissance qui était largement infuse. Ces quatre dons préternaturels ont disparu. Et du coup, on voit bien que le péché originel a entraîné l'homme dans une forme d'esclavage, dans de nombreux esclavages, et celui notamment du corps, de la perte d'une santé parfaite, d'une connaissance qui devient difficile, d'une volonté qui s'incline au mal plus facilement. Tous ces esclavages et cette révolte originelle que Adam et Ève ont commise personnellement vont être rachetés, vont être supprimés par notre Seigneur Jésus-Christ qui est annoncé. Le péché, ne l'oublions pas, vous êtes en train de l'examiner peu à peu, rend esclave. Il rend esclave à la fois du démon qui a de plus en plus chez l'homme pécheur de facilité à le faire agir dans le mauvais sens, mais il rend esclave tout simplement de nos passions. Si on prend l'image qui a été prise par bien d'autres du cocher qui dirige son attelage, eh bien, on voit que lorsque ce sont les chevaux qui mènent le cocher, il y a un problème, puisque normalement, c'est le cocher qui maîtrise et qui dirige là où il l'entend l'attelage. Eh bien, dans notre vie, dans notre être, c'est un peu la même chose. Lorsque ce sont nos passions qui nous gouvernent et qui nous dirigent là où elles le veulent, c'est qu'il y a un désordre. Et ce désordre est souvent et peut-être un esclavage, c'est-à-dire qu'on a perdu cette autonomie, cette liberté d'agir comme bon nous semble, mais j'insiste sur le bon, c'est-à-dire comme nous devons, dans la direction bonne, celle que Dieu nous a inscrite pour notre fin. Et donc, lorsque nous sommes dirigés par nos passions, par les conséquences de notre péché originel, eh bien, nous nous rendons compte que nous sommes esclaves. Alors, on parle souvent d'esclavage dans les termes actuels, en parlant du tabac, de l'alcool ou autre chose. Et ça, on les combat très efficacement en ce moment. Mais il y a des esclavages beaucoup plus graves que sont nos péchés, qu'on appelle nos vices, c'est-à-dire ces péchés réguliers, ces péchés fréquents, desquels nous avons finalement perdu la maîtrise, parce qu'ils sont commis régulièrement et nous ne cherchons plus à nous en défaire. Eh bien, ces esclavages, notre Seigneur est venu les rompre. Ces liens, ces chaînes, notre Seigneur est venu les rompre et la rédemption va le faire, va se réaliser lorsque notre Seigneur sera sur terre pour le faire. Et on n'insistera jamais assez sur cet asservissement du péché. C'est notre Seigneur qui le dit, c'est Saint Jean qui leur dira après lui, Saint Paul aussi. Donc, cette image de l'esclave, elle était facile à comprendre à une époque où il y en avait, au sens réel du terme, donc des hommes qui avaient perdu toute liberté. Mais le péché nous fait perdre notre liberté puisqu'il nous éloigne du bien pour lequel nous sommes faits. Or, la liberté, c'est justement cette faculté de choisir des moyens pour atteindre la fin qui ne se choisit pas, elle. Et cette question de la liberté n'est plus comprise dans nos temps actuels. On a des droits, dit l'homme, j'ai le droit de faire le bien ou le mal, je fais ce que je veux, je suis mon propre maître. Ça, c'est le discours de l'homme dit libre. On n'a pas le droit de faire le bien ou le mal. Le droit n'est que pour ce qui est droit, c'est sans jeu de mots, donc ce qui est bon. Et c'est vrai que l'on peut, on a la possibilité physique de faire quelque chose qui n'est pas droit, qui n'est pas ordonné, qui n'est pas conforme à notre fin. Mais ce n'est pas un avantage, c'est une déficience. Personne ne revendique le droit d'être malade. Et pourtant, c'est une possibilité que de se rendre malade. Donc on a bien la possibilité de se rendre malade. Peut être facile, on peut en connaître un certain nombre de moyens. Mais généralement, on ne le fait pas, parce qu'on sait bien que c'est source de souffrance, que c'est source de soucis, etc. Et pourtant, appliqué au bien, donc là c'est par rapport au corps, notre corps qui est droitement ordonné, toutes ses fonctions fonctionnent bien, tout est conforme à la santé qui est la finalité du corps. Mais pour ce qui est de tout notre être, corps et âme, ordonné à ce que Dieu a décidé d'être notre fin, eh bien là, nous prétendons que nous pouvons choisir notre fin. Voilà l'erreur moderne sur la liberté, alors que nous n'avons de choix que sur les moyens d'atteindre cette fin, et non pas sur la fin elle-même. Donc on ne choisit pas de faire le bien ou le mal, on choisit de faire le bien, on choisit les moyens pour faire le bien. Et le bien nous est donné par Dieu, il nous est indiqué par Dieu. Et lorsque nous voyons ce que nous avons fait, nos péchés spécialement, Eh bien, c'est nous rendons compte que nous nous sommes détournés de cette voie qui était voulue par Dieu. Et c'est ça le péché. C'est lorsque nous oublions que l'homme a reçu une liberté pour atteindre de façon consciente sa fin et pour collaborer à l'obtention de cette fin. Il n'y a pas de... C'est la différence entre l'animal et l'homme, ou encore plus entre le végétal et l'homme, puisque le végétal comme l'animal ne savent pas qu'ils sont sur une voie qui les fait atteindre leur fin. A priori, un végétal tend vers sa fin et le fait bien, dès lors qu'il ne lui met pas d'empêchement. L'animal, même chose. Mais l'homme, lui, il sait où il va, où il sait où il doit aller, où il devrait aller. Et il va collaborer à ce chemin qui mène à sa fin. Et ça, c'est le propre des êtres qui ont l'intelligence. Donc ça ne concerne que les anges et les hommes. Alors, ce don de l'intelligence et de la liberté qui va avec, eh bien, si nous en faisons un mauvais usage, nous perdons la bonne direction. Et en perdant la bonne direction, nous devenons moins libres, puisque la liberté nous était donnée pour atteindre la bonne direction. Plus vous éloignez du but que vous êtes donné, si vous perdez de vue le but que vous vous êtes donné, par définition, dirait la Palice, vous en êtes encore loin, vous en êtes encore plus loin. Bon, ben, c'est normal. Moins on fait un bon usage de notre liberté, moins on use notre liberté, plus on l'abîme, plus on s'éloigne de ce pourquoi elle était faite. Alors, le propre de la créature qui a reçu cette liberté, c'est de se rappeler que Dieu lui a donné cette liberté pour aller à lui. Et si l'homme refuse d'aller à Dieu et de dépendre de sa volonté divine, eh bien, plus l'homme va perdre sa perfection, perdre de vue sa fin. Alors c'est important de se le rappeler dans des termes un peu abstraits pour que on se redise bien de façon concrète cette fois que nos péchés, ceux que nous avons commis, eh bien, nous ont éloignés de Dieu. Mais cet éloignement, qui paraît infranchissable au bout d'un certain temps, eh bien, va être supprimé par Jésus-Christ. Le Rédempteur vient retrouver l'homme là où il était tombé, comme une immense fosse très profonde. Vous savez que parfois, il y a des gens qui tombent dans des crevasses, on ne peut plus aller les chercher. Eh bien, Dieu viendra jusqu'où nous sommes tombés. Et pas que nous, mais toute l'humanité. Donc l'esclavage qui nous a fait tomber si bas, Dieu va y mettre un terme. Et c'est Jésus, donc Jésus ça signifie sauveur, il est le Fils de Dieu, qui va prendre sur lui de réparer, de faire remonter cette humanité tombée. Et dans le nom de Jésus, qui veut dire sauveur, donc, il y a sa fonction, sa dignité. Il est Dieu et il est homme. Et c'est ça qui nous permet de comprendre la grandeur de Jésus-Christ, mais aussi de son action dans la rédemption. Il se présente à Dieu, il en est le Fils, et il va pouvoir proposer au Père de réparer l'offense qui a été commise par les hommes. Non seulement le péché originel, mais tous les péchés personnels de tous les hommes, de tous les temps. Et pourquoi Jésus-Christ seul pouvait sauver les hommes ? Parce qu'il était Dieu et parce qu'il était homme. Et il faut bien rester dans ces deux dimensions de l'incarnation, cette double nature de Jésus-Christ. L'offense qui a été faite à Dieu est infinie. L'homme, en Adam et Ève, a voulu se faire son égal, a voulu dire « Je serai comme vous, vous Dieu. » Et donc je ne serai plus dépendant de la fin que vous m'avez attribuée. C'est moi qui déciderai ce que j'ai, ce que je veux comme fin. On retrouve ce désordre originel. L'homme décide d'être lui-même autodépendant, c'est-à-dire qu'il ne dépend que de lui-même, ce qui est évidemment une illusion. Mais cette illusion lui a fait dire non à Dieu. Donc elle a une conséquence très grave. Non à l'ordre que vous aviez donné en l'interdiction de manger du fruit défendu. En transgressant cet ordre, il y a de la part d'Adam et Ève une volonté de s'affranchir de cette soumission à la dépendance envers Dieu qu'a toute créature. Et la révolte, elle est grave de ce fait, parce que elle met Dieu plus bas que ma volonté. On applique ça à chacun de nous. On aurait pu commettre le péché originel, ne l'oublions pas, si on avait été à cette époque. Mais, surtout, c'est que dans tout péché, il y a le fait que l'on met la volonté de Dieu sous la nôtre. Et donc on rabaisse Dieu et on s'élève, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, cette offense qui est faite au Dieu Tout-Puissant, elle est donc infinie, parce que Dieu étant infini, l'offense faite à quelqu'un d'infini prend une valeur d'infini. Or, qui pouvait réparer une offense infinie? Un être infini. Donc un simple homme ne pouvait pas réparer une offense infinie. C'est impossible. En plus, pour réparer, il faut en avoir les moyens. Et on voit bien qu'un homme, s'il est descendant d'Adam et Ève, a perdu beaucoup de moyens. Il est déjà abîmé. Donc si vous êtes abîmé et que vous voulez réparer, ça va être très difficile et très mal fait. Donc on voit bien que Jésus-Christ est le seul sauveur de l'humanité possible parce qu'il est Dieu et parce qu'il est homme. Et donc, c'est le deuxième aspect, c'est que cette réparation va être faite par un homme. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont des hommes, un homme et une femme, qui ont commis la faute infinie contre Dieu. Donc c'est logique que ce soit des hommes qui réparent quand ce sont des hommes qui ont cassé. Et cet homme, il est homme et Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est enfanté dans le sein de la Vierge Marie, et en même temps, donc ça c'est son humanité, et en même temps il est le Fils éternel de Dieu. Et ça c'est sa divinité. Et c'est le mystère de l'incarnation. Alors on peut dire qu'il est à la fois créature dans son humanité uniquement, et il est éternel et Dieu, Dieu éternel et tout-puissant, dans sa divinité. Et cette union des deux natures, dans l'unique personne divine, c'est l'un des plus grands mystères de notre foi, bien sûr. On ne va pas l'expliquer ici. Eh bien, c'est cet homme-Dieu qui vient nous libérer du péché. Et alors, c'est ça qui est le plus important. C'est que sa vie, chacun de ses actes, sera la source de notre réconciliation avec Dieu. C'est ça la rédemption, c'est que Dieu va nous retracer, nous réouvrir le chemin du ciel qui était fermé. Adam et Ève ont été chassés du paradis terrestre. Mais le paradis terrestre, ce n'était qu'une pâle copie de la vision béatifique trinitaire. Adam et Ève n'avaient pas la vision béatifique, sinon ils ne l'auraient pas perdu. Ils auraient été dans le bonheur le parfait, il aurait été hors de question pour eux de chercher ailleurs, si on peut dire. Donc, mais en même temps, ce paradis, ce bonheur terrestre, comme on dit, était quand même une bonne image pour faire comprendre une réalité surnaturelle et invisible qui les attendait. Eh bien, ce chemin était fermé, définitivement. Et heureusement, Dieu s'étant, le Fils de Dieu s'étant présenté à son Père, il n'y a pas de définitivement. Le Christ va venir mettre un terme à cette fermeture apparemment définitive du ciel. Et il va le faire dans toutes les parties de sa vie humano-divine, donc depuis l'incarnation, le jour de l'Annonciation, jusqu'à son ascension, sa montée au ciel, après sa résurrection, bien sûr. Après sa mort, sa résurrection, il y aura son ascension. Et à partir de l'ascension, eh bien, il y a ce déploiement continuel des grâces, des mérites qui ont été obtenus par lui sur terre et qui sont transmis, appliqués aux hommes par son Église. C'est l'Église de Jésus-Christ, l'Église catholique, qui a reçu pouvoir, à travers ses hommes, sa hiérarchie, de distribuer, de faire s'écouler tous les mérites que Jésus-Christ a acquis d'une façon définitive lorsqu'il était sur terre. Et la vie du chrétien sera donc la vie du Christ dans notre âme. Et c'est cela qu'il faut méditer. C'est tout en voyant nos péchés, ce que vous avez fait en début d'après-midi, et ce que vous continuerez à faire jusqu'à votre confession, bien sûr, eh bien, ce sont autant d'obstacles qui ont été mis par notre faute contre cette vie du Christ dans notre âme. Dieu avait un plan d'amour, d'union, de partage de ses richesses divines, et nous, nous avons opposé un non. Nous avons voulu être autonomes. Nous nous sommes fait croire que nous pouvions nous passer de Dieu. Ce qui est la plus grande absurdité, puisque l'homme dépend de Dieu quant à son être, quant à son existence, quant à la permanence de son existence. Si Dieu arrêtait de nous penser, nous n'existerions plus. C'est toujours mystérieux. Donc la vie du chrétien, et c'est cela qu'il faudra continuer de regarder tout au long de cette retraite, elle n'a de noblesse, de dignité qu'en tant qu'elle est remplie de la vie du Christ. Ce n'est pas le simple fait d'exister en tant que créature qui peut être quelque chose de grand. La preuve, c'est que nous sommes abîmés. Nous sommes blessés, comme on le dit, par le péché originel, et nous-mêmes, nous avons aggravé les choses. Nous avons fait tellement de choses qui nous ont qui ont été à l'opposé de notre perfection que nous ne pouvons pas dire que ce soit le fait d'exister qui soit quelque chose de grand. Ce qui est grand dans la vie d'un homme, c'est ce qu'on appelle sa perfection, c'est-à-dire tout ce qui contribue à le rendre bon. Or, cela ne peut jamais se faire en dehors de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, c'est la grâce du Christ qui, lorsqu'elle est dans notre âme, rend bon ce que nous sommes. Mais cela ne se passe pas sans nous. C'est-à-dire que ce n'est pas un coup de baguette magique qui nous transforme. Alors c'est sûr, il y a quelque chose de gratuit qui pourrait s'assimiler à la baguette magique. C'est ce don de l'amour de Dieu qui fait que nous sommes baptisés, que nous avons la foi, que nous sommes ici à vouloir avancer plus vite et mieux vers le ciel. Ça, c'est vrai, ce sont des grâces qui ne sont pas données à tous, manifestement. Mais en même temps, et nous le savons bien, Dieu compte sur nous. Ça n'est pas sans nous qu'il nous sauve, dit saint Augustin. Il nous a créés sans nous, mais ce n'est pas sans nous qu'il nous sauve. C'est très beau comme invitation à la sainteté chrétienne. Et cette invitation, bien sûr, ça va être un combat, on en reparlera plus tard, mais un combat qui doit monopoliser toutes nos forces. Et la vie du Christ sera le modèle de ce combat. Et c'est ce que je voudrais brièvement résumer pour que nous ayons une meilleure connaissance de Jésus-Christ puisque c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui a préparé toutes les grâces, tous les soutiens, tous les secours dont nous avons besoin. Il les a mis de côté, si l'on peut dire, pour chacun de nous. Mais il nous reste à les conquérir. Il nous reste à venir les chercher. Comment ? En imitant notre Seigneur Jésus-Christ. En faisant comme il a fait. Et c'est donc dans notre vie quotidienne que nous allons, on pourrait dire, cueillir chacun des mérites que Jésus-Christ nous a préparés pour que chacune de nos actions soit remplie des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous faisons ces actions avec notre liberté, c'est bien nous qui les voulons faire, nous voulons faire ces actes, eh bien, puisque nous avons mis notre liberté dedans, nous avons mis notre volonté dedans, c'est bien nous qui les faisons. Mais comme nous les faisons unis à Jésus-Christ, comme nous imitons Jésus-Christ dans ses actions, eh bien, Jésus-Christ les remplit de sa grâce. Ou plus exactement, sinon ce serait une erreur, c'est Jésus-Christ qui, par sa grâce, nous fait vouloir faire l'action bonne, et Jésus-Christ, par sa grâce, nous accompagne jusqu'à l'achèvement de l'action bonne. Et c'est ça la vie du chrétien. Alors, dans quelle vertu devons-nous imiter notre Seigneur Jésus-Christ ? Voilà qui doit nous aider à déjà remplir notre méditation pour nous dire, bon, dans quelle direction vais-je pouvoir mieux suivre les grâces de notre Seigneur Jésus-Christ ? Eh bien, voyons rapidement la vie de Jésus. Sa naissance à Bethléem. Jésus-Christ a voulu être pauvre pour nous apprendre à être humbles et à ne point placer le bonheur dans les richesses, dans les honneurs et dans les plaisirs du monde. C'est une réponse d'une question du catéchisme de Saint Pédis, qui était pourquoi Jésus-Christ a voulu être pauvre. Cette naissance dans l'extrême pauvreté doit nous marquer. Nous devons méditer constamment cette pauvreté volontaire de Jésus-Christ dans sa naissance. Cette circonstance forte, lui qui est Dieu, lui qui est humainement fils du roi David, donc c'est la royauté par excellence dans le peuple hébreu, et le plus grand roi, il en est le descendant, eh bien il naît non pas dans un château, dans un palais, il naît dans une étable. Eh bien, cette pauvreté doit nous rappeler plusieurs choses. La première chose, c'est que nous ne sommes pas faits pour vivre définitivement sur les choses terrestres, sur la terre. Mais aussi, Dieu a voulu nous montrer que nous sommes pauvres. Le pauvre, par définition, il n'a rien à lui. Et il y a des pauvretés qui sont volontaires, il y a des pauvretés qui sont involontaires. On a tout perdu. Sans l'avoir recherché, ça peut arriver. Et dans ces pauvretés, qu'elles soient volontaires ou involontaires, le résultat est le même, c'est que l'on dépend des autres qui ont pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et on voit une piste très forte, une invitation très forte à comprendre cela, l'importance de cela. C'est que Dieu nous montre que si, en tant qu'homme, il naît pauvre, c'est que tout homme est par définition pauvre. Tout homme, par définition, dépend de Dieu en toute chose. Il est dépourvu de tout. Alors bien sûr, il a une nature humaine. C'est la seule chose que Dieu lui a donnée d'emblée. S'il naît homme, il a cette nature humaine. Il a une intelligence, il a une volonté, il a un corps, une âme. Mais en même temps, il demeure dépendant de ce Dieu qui l'a fait. Et la pauvreté première que Jésus-Christ a voulu connaître dès sa naissance nous rappelle cette indigence fondamentale de la créature. Et puis je disais tout à l'heure, on peut perdre tout ce qu'on avait. c'est la situation dans laquelle se trouvent Adam et Ève depuis le péché originel. Vous avez une très belle image dans l'évangile de Saint-Luc sur la perte par ce voyageur qui descend de Jérusalem à Jéricho, et puis le bon samaritain qui va passer et le guérir, l'emporter et le faire soigner. Et les pères de l'Église ont vu dans cette parabole du bon samaritain cet homme qui se trouve dépouillé par des brigands, mais qui le laisse à moitié vivant. Donc il est blessé, il n'est pas mort, mais il lui ôte ses richesses. Il a donc encore un peu de vie, mais pas suffisamment pour se relever. Il dépend de ceux qui passent, et il y a trois personnes qui passent, un prêtre de l'Ancien Testament, un lévite, un de grand sou, et puis ce samaritain qui est l'image de notre Seigneur, et qui va le prendre sur sa monture et l'amener à une auberge pour le faire soigner. Et les pères de l'Église ont bien montré que c'est notre Seigneur qui prend dans son humanité le poids de la blessure de cet homme. Il est laissé à moitié vivant, c'est-à-dire qu'il ne lui reste plus que sa nature humaine, mais blessé, comme l'homme depuis le péché originel. Il a bien son humanité, mais elle est blessée, elle est dépourvue de toute la grâce et de tous les dons que Dieu avait faits aux premiers hommes. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, il vient nous apporter la réparation, la guérison à ses blessures. Et dans sa pauvreté, il nous indique que nous avons été dépouillés de ce qui était notre richesse, ou ce qui était la richesse en tout cas d'Adam et Ève. Voilà cette pauvreté. Sa vie terrestre, qui continue bien sûr, où il continue à être pauvre, eh bien, il va nous enseigner bien sûr ce qu'il faut faire par l'exemple, par la parole, par l'exemple en menant une vie droite, une vie respectueuse bien sûr de la volonté de son Père. Et il va prouver que ce qu'il dit est vrai, et notamment lorsqu'il affirme qu'il est Dieu, par des actes qui dépassent toute force humaine, les miracles. De même que durant l'Ancien Testament, tous les prophètes avaient reçu des pouvoirs spéciaux pour prouver qu'ils étaient envoyés de Dieu, que ce qu'ils disaient n'était pas de leur propre fait, mais était voulu par Dieu, ce qu'ils prophétisaient, ce qu'ils enseignaient. Et ils avaient donc des pouvoirs qui leur faisaient faire des miracles. Et ces miracles, évidemment, authentifiaient la véracité de ce qu'il disait. Eh bien, notre Seigneur le fera en temps voulu, lorsqu'il convertit, lorsqu'il guérit les corps, il guérit aussi les âmes. Il ne lui est pas plus difficile de faire redresser un paralytique que de remettre les péchés au même paralytique, pour bien montrer que les deux ne sont les faits que de Dieu. Il n'y a personne, aucun être humain. Alors éventuellement un prophète pourra faire un miracle sur les corps, mais le prophète ne pourra pas remettre des péchés. Alors on voit que notre Seigneur s'est montré Dieu dans toutes ces occasions. Et il nous a indiqué, bien sûr, cette miséricorde. Cette miséricorde qu'il manifeste à tous, soit qu'ils soient affectés dans leur corps, on l'a dit, soit qu'ils soient affectés dans leur âme. Ce sont les grands pécheurs, mais les grands pécheurs qui veulent se sortir de leurs péchés, qui seront les plus bénéficiaires de sa miséricorde. Et nous avons aujourd'hui Sainte Marie-Madeleine, qui en est bien un exemple. Elle qui a beaucoup péché, mais qui en même temps a beaucoup aimé, a beaucoup eu envie finalement, lorsqu'elle a entendu notre Seigneur, de s'en sortir et a appelé sa grâce, eh bien il lui sera beaucoup pardonné. Et vous avez là un bel exemple, bien sûr, pour préparer avec elle votre confession. Cette miséricorde, notre Seigneur nous demande de la pratiquer. C'est certainement l'une des plus belles vertus que nous ayons à imiter de notre Seigneur. C'est, on pourrait dire, la vertu après l'humilité et l'obéissance, c'est la vertu qui nous rend les plus... Autant l'humilité et l'obéissance sont le propre de la créature. En ce sens que, par définition, l'humilité nous fait reconnaître que nous sommes dépendants. Et l'obéissance aussi, puisqu'elle nous fait agir conformément à une volonté qui n'est pas la nôtre. Mais dans la miséricorde, donc ça c'est les deux vertus qui nous sont, pour dire, le propre de la créature. Dans la miséricorde, on a, on pourrait dire, la vertu propre à Dieu. Ce n'est pas moi qui l'invente, puisque nous avons cela dans des oraisons qui disent « Vous dont le propre est de faire miséricorde ». Vous avez ça dans les, à différents moments de la liturgie, même je crois un dimanche qui doit l'avoir, un dimanche après la Pentecôte, mais aussi nous l'avons dans les oraisons qui suivent la prière des rogations, notamment. Eh bien, vous dont le propre est d'être miséricordieux. Si nous-mêmes, nous savons faire miséricorde, c'est-à-dire nous savons avoir pitié du mal que nous voyons dans le prochain pour essayer de l'ôter, ce mal, et non pas d'en enfoncer celui qui le possède, ou de mépriser celui qui est dans le mal. Eh bien, si nous avons cette miséricorde, nous allons toucher, on pourrait dire, ce qui est vraiment propre à Dieu. Et c'est évidemment l'un des sommets de la vie chrétienne, ce sera d'être miséricordieux. C'est ce que l'on retrouve dans ce sommet qu'on appelle l'amour de nos ennemis. Quand on dit qu'il faut aimer ses ennemis, ce n'est pas aimer ceux qui font du mal, ceux qui nous font du mal, parce qu'ils nous font du mal. Ce serait absurde. C'est savoir discerner chez ceux qui nous font du mal un mal qui est plus grand chez eux que celui qu'ils nous font. Celui qui fait du mal, bien sûr, peut faire du mal à quelqu'un. Il peut le blesser, il peut l'offenser, il peut le contrister à des degrés divers. Mais parce qu'il fait du mal, il s'éloigne de Dieu. Et donc, il perd le chemin de sa perfection, comme nous lorsque nous faisons du mal. Eh bien, celui qui aime son ennemi, malgré le mal qu'il lui fait, il sait discerner justement cette misère qu'il y a dans son ennemi et qui fait qu'il voit que cet ennemi, il est en train de perdre le chemin de sa perfection et qu'il est en train d'être ennemi de Dieu. L'homme qui est miséricordieux comprend que celui qui fait le mal est en train d'offenser Dieu, même si c'est une offense qui se fait aussi contre lui qui est offensé, l'être humain qui est offensé. Et alors évidemment, on voit que cela ne peut être que le fait d'une âme unie à Jésus-Christ. Ça n'est pas naturel à l'homme d'avoir pitié de son ennemi. C'est d'abord la vengeance qui viendra spontanément. Ça paraît évident, puisque nous avons toujours cette tendance bien ancrée en nous. Et donc, seule la grâce de Jésus-Christ peut mettre en nous ce discernement qui dépasse le mal que l'on reçoit pour voir la misère qui est à l'origine et qui est en train de submerger celui qui nous offense. Et donc, être miséricordieux, c'est-à-dire avoir un cœur face à cette misère de l'autre, c'est vraiment ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ a manifesté cette miséricorde au plus haut point, spécialement à partir de sa vie publique et au sommet de la croix, bien sûr, en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Alors voilà quelques pistes très courtes pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Retenons cette humilité, cette pauvreté, qui nous rappelle notre condition de créature. J'aurais pu parler, bien sûr, de la pureté, de la charité, du don de soi. J'ai insisté sur la miséricorde. Voilà le chemin du chrétien. Voilà les vraies vertus chrétiennes. Et si nous en voulions un résumé complet, eh bien, relisez tout simplement les Béatitudes, chapitre 5 de saint Matthieu. Vous l'avez dans vos missels à la fête du... C'est l'évangile du 1er novembre, la fête de la Toussaint. Si vous n'avez pas de Nouveau Testament, regardez dans votre missel au 1er novembre. C'est l'évangile. Eh bien, si l'on devait rester sur une seule des vertus, je voudrais, pour garder ce fil conducteur, reprendre cette vertu d'humilité que j'ai un petit peu gardée pour la fin. J'en ai parlé avec la pauvreté qui montre, et l'obéissance qui montre une dépendance envers la volonté d'autrui. Mais dans l'humilité qui a été constante chez notre Seigneur, lui qui est Dieu, mais qui s'est, on pourrait dire, efforcé de regarder son humanité qui était dépendante pour mieux vivre ce chemin de soumission en tant qu'homme. Dans son humanité, notre Seigneur, évidemment, se doit d'être aux affaires de son Père, se doit, est dépendant de la volonté du Père. Alors que, quant à sa divinité, il y a égalité parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas, si ce n'est une dépendance d'origine, mais qui n'est pas une inégalité, ou en tout cas qui n'est pas une infériorité, plus exactement. Donc c'est bien en tant qu'homme qu'il est humble et qu'il va aimer sa dépendance. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer pour que nous résumions finalement ce chemin d'ouverture du ciel que Jésus-Christ nous a tracé par la vertu d'humilité. Quand on dit que c'est le fondement de la vie chrétienne, il faut bien comprendre que ce n'est pas une espèce de marche première, et puis après on l'oublie, et puis on continue avec d'autres vertus plus importantes, plus visibles, plus enthousiasmantes, parce qu'évidemment l'humilité, on sait très bien que ce n'est pas très enthousiasmant. Alors, pourquoi notre Seigneur a-t-il été humble au plus haut point? Eh bien, parce qu'il a voulu nous montrer que le chemin du ciel passe par cet amour de la dépendance radicale que la créature entretient avec son Dieu. Être humble, ça n'est pas s'abaisser constamment en disant qu'on est le dernier ou la dernière de l'humanité. C'est souvent, quand c'est prononcé, plus l'effet d'un orgueil ou d'une fausse modestie qu'autre chose. Mais c'est accepter et aimer le fait de devoir tout ce que l'on est à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Et c'est le reconnaître. C'est une reconnaissance d'une dépendance. Or, la créature, par définition, puisqu'on dit créature, on dit être qui est créé. Bon, jusque-là, ça va. Et un être qui est créé, qu'est-ce que c'est? C'est pas un être qui a été fabriqué et puis après, il continue de vivre tout seul. Un être créé, c'est un être qui dépend constamment de celui qui le crée. N'imaginons pas la création comme nous quand on fabriquons quelque chose. On a fabriqué un objet, on a réalisé un ouvrage, puis après, on peut mourir, cet ouvrage, s'il est dans une matière solide, il va durer. N'imaginons pas la création comme cela. Ça, c'est une erreur que des ennemis de l'Église ont défendue. Des déistes, par exemple, qui vont dire bah, « Dieu, oui, nous fait, c'est le grand architecte, il est éventuellement créateur, mais il n'est pas... Ça y est, une fois qu'il nous a fait, il ne s'occupe plus de nous. » C'est complètement faux. Si Dieu ne s'occupait plus de nous, nous n'existerions plus. N'imaginons pas, encore une fois, le fait d'être créé comme étant un point de départ, un coup de pouce, et puis après, c'est nous qui nous débrouillons. Nous ne pouvons pas nous débrouiller. L'être que nous avons et qui subsiste, il dépend de Dieu. Il est causé par Dieu. C'est Dieu qui cause constamment notre être. Il est constamment la cause de notre être. Et s'il arrêtait de causer notre être, nous ne serions plus. Puisque donc cette dépendance est constante, l'humilité consistera à la reconnaître constamment et de ne pas s'attribuer à aucun moment de notre existence une espèce d'autonomie enfin conquise qui nous permettrait d'en être débarrassés avec cette dépendance. L'humilité, c'est au contraire un amour de cette dépendance. Un amour joyeux d'être fils de Dieu en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous a mis et remis avant le péché, avec le péché, à la création, pardon, les Adam et Ève étaient des créatures de Dieu, mais ils n'étaient pas des fils adoptifs de Dieu en Jésus-Christ. Il y a donc eu, après cette heureuse faute, comme le dit encore saint Augustin, Felix culpa, eh bien, quelque chose d'encore plus grand avec la rédemption et l'incarnation. C'est la possibilité d'être des fils adoptifs de Dieu. Donc le cadeau est encore plus grand, et on peut dire la dépendance est encore plus grande, puisque nous dépendons de Dieu maintenant quant à sa grâce dans le Christ. Et c'est merveilleux que de dépendre encore plus de celui qui est Dieu, parce que plus on dépend de lui, plus cela veut dire qu'il nous donne. Si nous recevons de quelqu'un une lettre tous les jours, alors nous attendons cette lettre tous les jours. Nous savons qu'elle va arriver, il y a une petite dépendance. Si nous recevons de l'argent régulièrement, nous sommes encore plus dépendants si nous n'avons pas d'autre source que cette personne qui nous donne de l'argent. Etc., etc., vous multipliez les dons qu'on pourrait vous faire, plus vous êtes dépendant, et plus vous recevez, plus vous êtes dépendant, mais ça va dans les deux sens. Donc, plus Dieu nous donne, plus nous sommes dépendants de Dieu, mais plus nous sommes riches des dons de Dieu. Et donc, il n'y a aucune raison de s'affliger d'être dépendant. Nous qui cherchons constamment à nous libérer de Dieu, de sa volonté, de ses commandements, de tout ce qui nous contraint en apparence, c'est une illusion et en même temps c'est une erreur. Puisque nous avons tout intérêt à dépendre de celui qui nous donne de plus en plus et qui veut de plus en plus nous donner. Alors pensons bien à tout cela pour rester avec ce fil conducteur de l'humilité, pour mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ et mieux l'imiter. Eh bien, je vous propose tout simplement de relire l'Évangile, relire la vie de Jésus, ou relire une vie de Jésus, expliquée par des saints spécialement, c'est mieux. Et puis, n'hésitez pas, puisque c'est beaucoup plus facile encore, c'est de méditer le rosaire. Les mystères du rosaire sont une méditation des vertus de notre Seigneur Jésus-Christ et de Notre-Dame. Il y a donc une facilité pour le chrétien d'être au contact avec cette pratique des vertus de Jésus. Et en même temps, en appelant la grâce par la Sainte Vierge pour les pratiquer, eh bien, nous avons mieux, plus facilement à l'esprit les vertus que nous devons pratiquer. Et puis enfin, organiser peut-être sa vie pour pratiquer, ce sera plutôt fin de retraite, telle ou telle vertu, avec un zèle plus profond. Alors ce sera examiné, quelle est la vertu qui nous fait le plus défaut. Et prenons-la en notre Seigneur Jésus-Christ. Ne prenons pas une espèce de décision de pratiquer telle vertu de façon abstraite. Ni, quand je dis de façon abstraite, ça veut dire non pas coupé du réel, j'ai envie d'être vertueux ou vertueuse de telle façon, et donc je vais l'être, ça y est, c'est décidé grâce à la retraite. Non, ça ce serait de façon abstraite. Il faut voir le concret de votre vie. Mais ce que je voulais dire surtout, de façon qui ne soit pas abstraite, c'est de façon qui soit coupée de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons cette vertu en Jésus-Christ et tâchons de l'imiter comme il l'a pratiqué lui-même. Même s'il y a des choses qu'on ne peut pas imiter parce que c'était Jésus-Christ et que les circonstances de notre vie ne nous permettent pas de les pratiquer, bien sûr, il y a cette attitude de cœur et d'esprit que nous pouvons pratiquer. Et c'est cela qu'il faut savoir imiter. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je termine par elle, a eu cette très belle définition de la sainteté que je vous donne. La sainteté n'est pas dans telle ou telle pratique. Elle consiste dans une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits entre les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Ce n'est pas dans telle ou telle pratique, c'est une disposition de cœur qui nous rend humbles et petits, conscients de notre faiblesse, ça c'est l'humilité, qui est la vérité, et confiant jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Audace qui va nous faire nous appuyer sur ce Père du ciel qui nous aime et qui nous a donné son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, pour reprendre ce chemin du ciel. Quelle qu'ait été notre vie passée, quelles que soient nos difficultés à nous maintenir la tête hors de l'eau, eh bien, soyons audacieux. Nous sommes dépendants de Jésus-Christ. Depuis que nous sommes baptisés, nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Et nous sommes unis à Jésus-Christ. Eh bien, heureuse dépendance qui nous fait pouvoir oser retrouver le chemin du ciel qui nous avait été fermé par nos péchés, parce que nos péchés, bien souvent, auraient suffi à cela.